Et on va le joindre au bout du fil, Olivier Beauregard, pour voir avec lui ce qui a retenu son attention dans la dernière semaine sportive. Olivier, bonjour.
Salut.
On commence en faisant le bilan d'un premier anniversaire, celui de Kent Hughes, qui a regardé un petit peu en arrière, puis il a regardé comment ça a été cette première année-là chez le Canadien.
Oui, il a fait son bilan hier du côté de Montréal. Il a décidé de, dans le fond, faire un premier bilan d'année. Et écoute, je pense qu'il y avait quand même des bons points là, hier dans ce bilan-là. T'sais, il a parlé de l'embauche de Martin Saint-Louis, il a parlé de son travail pendant le repêchage. Si on commence par le travail pendant le repêchage, moi, je pense que ça a été un travail colossal. Là, on le sait, là, il est allé se positionner à de bons endroits pour justement récupérer des choix importants. Il est allé chercher des joueurs d'impact en Kirby Dock, justement, là, qui est en train de relancer sa carrière tranquillement à Montréal. Je pense que Kent Hughes a un plan précis, puis c'est ça qui est le plus intéressant là, okay, au niveau du repêchage. Tu sais, on n'a pas senti que c'était un DG qui allait avec le coup de l'émotion, avec les feelings. C'est vraiment un gars qui a un plan, qui veut le respecter. Juraj Slafkovský, qui a été son choix de première ronde. Bon, là, il y en a beaucoup qui ont l'impression que Slafkovský est en train de prendre du retard. Il est trop tôt pour justement parler de Juraj Slafkovský et l'impact qu'il va avoir avec le Canadien de Montréal. On a décidé de le faire commencer en haut. Là, on dit qu'il va rater le reste de la saison pour une blessure. J'ai comme l'impression que Slafkovský, il est trop tôt pour se prononcer là-dessus, mais il est allé chercher un gars comme Messer également. Il a mis beaucoup d'importance sur les choix au fil des prochaines années du Canadien pour bâtir un club compétitif. Alors, non, moi, j'ai trouvé ça au niveau du repêchage, là, j'ai vraiment l'impression que Kent Hughes a fait ses devoirs, mais souvent, quand c'est un ancien agent qui arrive dans le portrait d'une équipe de hockey, lui, il sait où ça se passe le plus, la construction d'une équipe, j'ai l'impression, parce que il fait partie des négociations, il fait partie des discussions, il sait justement comment les équipes s'organisent pour bâtir une équipe championne, parce qu'ils font partie des discussions depuis tellement d'années. Alors, de ce côté-là, j'ai l'impression que Kent Hughes là, fait un travail colossal. Maintenant, l'embauche de Martin Saint-Louis, jusqu'à présent, ça s'avère être une embauche intéressante. En tout cas, là, je veux dire, Martin Saint-Louis fait ce qu'il peut avec l'équipe qu'il a. Puis c'est pas tout le monde qui aurait donné le crédit à Martin Saint-Louis parce que, tu sais, il veut pas, Saint-Louis, il avait aucune expérience dans le coaching, en tout cas dans le coaching professionnel.
Ouais.
Il est arrivé en arrière d'un banc. Puis c'est pas le premier gars qui a connu une brillante carrière dans le hockey dont on a dit, ben, je pense que t'as l'étoffe d'un entraîneur-chef, puis finalement que ça fonctionne pas. Tu sais, Wayne Gretzky a été derrière un banc à Phoenix, puis ça a pas été très reluisant. Donc, dans le cas de Martin Saint-Louis, c'est sûr que si on regarde l'affiche, on se dit « Ouf, OK, c'est pas facile, peut-être qu'il connaît les difficultés. » Moi, je pense que le mandat est clair, là, c'est pas de gagner du côté du Canadien, c'est de changer la culture, donner une culture de travaillante, de donner une culture aussi d'équipe, de compétiteur. Puis je pense que c'est ça que Martin Saint-Louis est en train d'inculquer à ses joueurs. Puis quand il y aura une équipe qui devra performer, ben, je pense que là, ce sera à lui de montrer qu'il y a ce qu'il faut pour amener son équipe à performer. Mais présentement, vraiment pas décevant à ce qu'il fait. Maintenant, moi, je pense que, oui, c'est une année de bilan, mais il y a quand même des choses qui s'en viennent qui vont être très importantes pour l'avenir de Kent Hughes, qui va laisser sa marque, si vous voulez. Et je parle notamment du contrat de Cole Caulfield. Ça, je pense que c'est son plus gros dossier. Une fois qu'il va avoir réglé ça, et si le Canadien s'en sort vainqueur, s'en sort gagnant, on dirait que Kent Hughes a fait un travail colossal, c'est sûr, parce que Cole Caulfield, un joueur comme ça, le Canadien n'a pas eu ça depuis très longtemps. Je pense que c'est le dossier chaud. Je pense que c'est un dossier qu'il se doit de régler rapidement. Tu veux pas aller en arbitrage avec lui. Tu veux pas créer des tensions, des frictions avec ton joueur parce que ça va devenir ton joueur de concession dans les prochaines années, si ce n'est pas déjà. Alors moi, je pense que ça, c'est le gros dossier. Et hier, il a dit publiquement, un peu comme Marc Bergevin l'avait dit quand il était assis dans sa chaise, il a dit « Moi, là, je vais être transparent, mais je vous parlerai pas des discussions contractuelles. » Parce que ça regarde pas personne. Ça peut être long. Puis quand c'est long, ça veut pas dire que ça va mal. Puis quand c'est court, ça veut pas dire que ça a super bien été. Mais il veut pas parler des questions contractuelles. Il veut pas parler des discussions. Quand Cole Caulfield aura signé, il a promis qu'il allait faire un bilan de ce contrat-là. Alors ça, on le verra. Mais ça, c'est son dossier chaud. Puis c'est le dossier que j'ai hâte de voir quand est-ce que ça va se régler. J'espère que ça va se régler plus tôt que tard parce que Cole Caulfield, c'est un joueur électrisant, c'est un joueur d'impact. Puis c'est un gars que le Canadien ne peut pas se passer. Alors, beau bilan hier, mais je pense qu'il y a encore des gros dossiers sur la planche.
Ben un an, hein, ça laisse pas tout le temps qu'il faut pour faire ce qu'on veut faire puis compléter notre liste, là.
Exactement.
Restons dans le monde du hockey. Allons faire un tour chez les Flyers. Histoire qui est arrivée mardi soir. C'est ce joueur, Ivan Provorov, qui a refusé de porter un chandail spécial des Flyers pour cette soirée de la fierté. Puis là, ben, ça fait jaser pas mal depuis mardi.
Oui, exactement. C'est une histoire un peu... c'est dur à avoir... Moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça difficile d'avoir une opinion là-dessus parce que Ivan Provorov a dit « Je respecte les choix de tous et chacun. Je veux qu'on respecte mon choix. » Bon, là, il y a matière à discussion déjà là. Mais j'ai pas le goût de me lancer là-dedans. Moi, ce que je déplore, c'est que la Ligue a décidé de s'associer dans des causes. Et la Ligue nationale a sorti un communiqué hier en disant « Chaque joueur a le droit... » de se sentir interpellé par une cause ou non. Mm-hmm. Ça, je comprends. Sauf que si la Ligue nationale bâtit un environnement où on veut être inclusif, où on veut justement amener le hockey à un autre niveau, je te parle en tant que surtout cause sociale, puis on veut l'amener à un autre niveau, moi, je pense que tout le monde doit y adhérer. Puis une situation comme hier, pas comme hier, mais comme mardi, je trouve ça spécial parce que je me dis, OK, Ivan Provorov, qui est une tête d'affiche à Philadelphie, lui, ben, il ne croit pas à l'importance de l'inclusion, ne croit pas à l'importance de des soirées comme ça, puis de mettre de l'avant, justement, les différences dans toutes les communautés qui existent. Lui, il ne croit pas ça. C'est pas dans sa religion, là, c'est ce qu'il dit, je reprends ses mots. Je peux comprendre, puis je suis qui, moi, pour juger sa religion. Par contre, je trouve que c'est très hypocrite de la Ligue nationale, après ça, de bâtir des build-up pour essayer d'aller chercher, si tu veux, je sais pas comment le dire, mais aller chercher une certaine clientèle, parce que Colin, tu sais très bien que, dans le fond, la marche qui est à suivre, ben, c'est pas tout le monde qui veut la suivre, c'est pas tout le monde qui la joue chez vous. C'est comme si on avait un côté un peu hypocrite là-dedans, puis c'est ce que j'ai pas aimé. Tu sais, c'est, à un moment donné, vous pouvez pas décider de faire quelque chose puis que vous le faites à moitié. Tu sais, faut, on veut être inclusif, on veut être ouvert, ben, assurons-nous que le message soit passé dans nos vestiaires que, écoutez, dans la Ligue nationale, c'est comme ça que ça fonctionne. On est inclusif, on est ouvert, puis on va continuer à prôner ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, malheureusement,
ben, comme n'importe quel employeur qui a des valeurs puis des principes, ben, on y adhère ou pas, puis si on y adhère pas, ben, on va postuler ailleurs, là.
C'est exactement ça. Tu sais, si Ivan Provorov n'est pas content de ça, ben, voyez-vous dans le KHL. Tu sais, je veux dire, moi, c'est mon point de vue, là, puis je sais qu'il y a bien des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui disent qu'il y a le droit de pas vouloir participer, puis regarde, chacun a son opinion. Mais moi, personnellement, là, je suis exactement de ce côté-là en me disant, écoute, c'est les valeurs que la Ligue nationale veut mettre de l'avant, c'est les valeurs que la Ligue nationale prône. Si toi, t'es engagé par la Ligue nationale, parce que jusqu'à preuve du contraire, il va probablement avoir soit un chèque de paie de la Ligue nationale, si toi, t'es payé par ça, puis que tu n'adhères pas à ces valeurs-là, puis que tu dis que ça ne fait pas partie de ta religion, qu'est-ce que tu fais dans la Ligue nationale? On n'est plus en 1970, là. On est en 2023. Ce sont des causes, puis on ne peut pas juste embarquer dans ces causes-là parce qu'on veut faire partie de la gang. Si tu embarques dans ces causes-là, c'est parce que tu vas avoir un impact. Tu veux montrer, justement, comme je te dis, tu veux être dans la cause pour la cause. Tu ne veux pas être dans la cause pour bien paraître.
Non, c'est ça.
Ce que je trouve en ce moment, autant les Flyers que la Ligue nationale, ben c'est juste du bien paraître. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance à ce qu'on y participe ou pas. Mm-hmm. Tu comprends?
Oui.
Ça, là, ça me pue mon nez, ça me répugne. Puis j'ai regardé le rapport de la Ligue nationale puis le communiqué de presse à ce sujet-là, puis je me suis dit, OK, fait que dans le fond, on le fait parce qu'on veut le faire, mais sinon, c'est pas plus important que ça. Ben ça m'a donné déçu. Je vous le dis, là, parce que je sais que c'est un terrain glissant, mais ça reste mon opinion. Je vous donne mon opinion par rapport à ça. Parce que moi, je travaille dans le hockey. Puis moi, quand je fais des soirées comme ça, c'est bien malheureux, mais c'est tout le monde qui embarque parce que ça fait partie de les valeurs de l'entreprise. Mm-hmm. Si t'es pas d'accord avec les valeurs de l'entreprise, ben t'as pas d'affaires dans l'entreprise.
Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Exactement. Donc ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en jaser de ça. Je pense qu'il va avoir comme une suite, j'ai l'impression.
Mais tu sais quoi, tant mieux si ça l'ouvre la discussion. Mais moi, ce qui m'écœure, c'est que j'ai l'impression de faire un pas en arrière avec ça. Puis, ça m'énerve un peu. Je comprends pas pourquoi, aujourd'hui, en 2023, on est encore obligé de se dire, hey, come on, là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, Bref, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'on fait un pas de reculons au lieu d'en faire un de l'avant. Puis malheureusement, les Flyers, je trouve qu'ils n'ont pas aidé à ça. John Tortorella, un bon père de famille, a dit à la fin de son joueur en disant « Écoutez, je vais respecter ses valeurs. C'est les siennes, c'est ses convictions. Il a le droit à ses convictions. » Puis, dans le fond, il a le droit, il a raison. Mais pourquoi on fait ça d'abord à Philadelphie si personne n'embarque là-dedans? Parce qu'on est obligé. Si c'est ça, vous ne le faites pas pour les bonnes raisons.
Exactement. Parlons football maintenant, Olivier, parce qu'on arrive, on est à quelques semaines du oui. Super Bowl. Donc, ça se poursuit, ces éliminatoires. Là. Tu vas surveiller ça en fin de semaine?
Hey, écoute, certain. La semaine dernière, c'était avant. Là, je veux dire, moi, bon, j'ai un parti pris pour les Bills de Buffalo. Je les adore. J'adore la défensive. J'adore le corps arrière de Charlotte. La semaine dernière, elle m'a dit, j'ai eu peur. les Dolphins de Miami, qui ne pouvaient pas compter sur leur corps arrière partant, ont connu quand même une bonne sortie. J'ai été impressionné de voir la tenue, peut-être aussi la tenue de la défensive des Bills qui était médiocre. Là. Mais sinon, ça a été un match en vent jusqu'à la toute fin. Ça s'est soldé par, écoute, je pense, 5 points d'écart, là, si je ne me trompe pas. Donc ça a été un match captivant. Même chose du côté, hey, écoute, les Cowboys, je pense que leur batteur va se faire congédier à l'enfin des séries. Ils ont gagné, mais tabarouette qu'on a eu le show. Ça a été vraiment enlevant comme week-end éliminatoire. Et j'espère que c'est un avant-goût de ce que les séries tout au long jusqu'au Super Bowl vont nous donner, parce que ça fait en sorte que la parité est tellement incroyable dans la NFL que ça fait en sorte que ça nous donne tellement de beaux spectacles. Puis,
c'est plus le fun quand on arrive avec des matchs serrés, c'est plus agréable pour n'importe quel partisan. Là, il y a quelque chose, il y a un engouement. Là.
Exact. Puis il y a une formule dans la NFL, Sébastien, que moi j'aime, c'est un match décisif. Tu sais. Il n'y a pas de 4-7, il n'y a pas de 3-5. Mm-hmm. C'est vraiment, ce match-là, tu le gagnes ou tu le perds. Si tu gagnes, tu avances. Si tu perds, tu es éliminé. Et ça fait en sorte que ça nous donne des matchs en vent. Tu sais, il n'y a pas personne qui peut connaître de mauvaises sorties.
Non, tu n'as pas le choix de tout donner tout le temps.
Exactement. Alors, ça, des fois, c'est le contexte qui est vraiment, moi, ce qui me satisfait énormément. Je te dirais que j'aurais peut-être eu un discours différent si les Bills avaient perdu, mais bref. c'est mon côté. Mais en tout cas, en fin de semaine, très intéressant. Les fois, c'est par des Bills parce que c'est selon moi une des équipes de l'heure. Il affronte Joe Burrow et les Bengals. On se rappellera que le dernier duel entre ces deux équipes-là s'est terminé avec une blessure qu'on n'aime pas voir, celle-là de Hamlin. Maintenant, on reprend un duel, mais cette fois-ci, en saison de la tour, ça va être intéressant. Puis, si certains, ceux qui ont vu le match de lundi soir de Tom Brady et des Buccaneers, écoute, je veux pas être négatif, mais j'ai comme l'impression que c'était le dernier match de Tom Brady, mais on verra. Il y en a qui pensent qu'il va aller jouer une équipe qui pourrait gagner dans l'immédiat de l'an prochain. On va voir, mais moi, je pense que lui, il a fait le tour un peu du jardin.
Ben, on l'a dit à quelques reprises que c'était sûrement l'année de trop, là. Sa retraite, il n'aurait pas dû en ressortir, là, à durer deux jours. Là, mais...
Il aurait peut-être allé jouer au golf, prendre ça relax. je pense que c'est terminé. Mais sinon, c'est ça. Bon week-end éliminatoire. On s'en reparlera la semaine prochaine. On va mettre la table, justement, parce que le portrait va se dessiner rapidement pour les équipes qui vont se diriger au Super Bowl. Puis on fera un portrait de qui là, pourrait avoir le meilleur au Super Bowl cette année. En tout cas, on s'en vient, c'est intéressant. C'est un des très bons temps de l'année au niveau sportif.
Et en terminant, tu voulais évidemment glisser quelques mots sur le décès de Gino Ojik qu'on a appris le dimanche soir.
Oui, exact. Puis je sais que plus particulièrement, les auditeurs de CHGA sont suivis à cette nouvelle-là parce que c'est un petit peu de chez nous. C'est très triste. C'est un décès subi plus tôt, tu sais, 50 quelques années de Gino Ojik. C'est vraiment une figure, je vais dire marquante de la Ligue nationale parce que tout le monde s'est senti. Il a marqué tellement les partisans. Peu importe son passage, c'est oui, évidemment, on l'a connu pour l'ensemble de sa carrière avec les Canucks de Vancouver. Mais tu sais, il est venu à Montréal, il a joué un peu avec les Flyers de Philadelphie aussi. Et à Montréal, il a été rapidement un apprécié parce que c'est un guerrier, c'est un gars qui se présentait sur la glace, c'est un gars qui allait dans la communauté également. Moi, Gino Ojik, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu cette personne-là de rencontrer en personne. Mais ce que j'entends, c'est que les gens qui l'ont côtoyé, même si c'était pas le plus grand orateur, c'est pas le gars qui avait le plus parlé devant une foule, etc. C'était très généreux de son temps, qui donnait beaucoup aussi à sa communauté. Alors, c'est une bien triste nouvelle. C'est un des destins qui nous affecte, veut pas, parce que, comme je dis, c'est une personne de la région, c'est un gars qui a laissé sa marque. C'est un gars qu'on n'oubliera pas du tout. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Sébastien, le centre sportif de Maniwaki maintenant s'appelle le centre Gino Ojik. Hein?
Absolument, depuis quelques années déjà.
Bon, tu vois, donc tant mieux si on est capable de l'honorer de cette façon-là, en espérant qu'on trouve une autre façon de l'honorer parce que je pense que c'est un grand qui nous a quittés cette semaine. Puis c'est...
Je pense qu'il y a bien du monde qui travaille déjà là-dessus, puis il y a eu cet hommage hier soir là, avant le match des Canucks, là, hier ouais, en fin de soirée. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Absolument, merci. Bye-bye.